Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Bienvenue chers auditeurs et auditrices dans cette émission Autour du Livre. Un rendez-vous que vous pouvez retrouver tous les deuxièmes mercredis du mois, de 20h à 21h et en rediffusion le quatrième mercredi à la même heure, sur le 102.2 ou sur le www.rtvfm.net. Une émission que vous pouvez aussi réécouter en podcast juste un petit peu après sa première diffusion sur notre site web. Alors Autour du Livre, eh bien c'est une émission culturelle littéraire. Des rencontres avec une, un ou plusieurs auteurs, illustrateurs, libraires, éditeurs locaux. J'accueille aussi parfois quelques auteurs, illustrateurs, éditeurs de régions voisines. J'invite des lecteurs, des lectrices qui souhaitent venir nous parler du livre qui a changé leur vie. Autour du Livre, ce sont des petites annonces sur les événements autour du livre qui se déroulent à Carpentras ou les villages alentours. Des lectures à une, deux ou trois voix, des livres au coup de cœur, des chansons à texte ou des musiques à thème. En ce mois de décembre, j'accueille trois écrivains, Serge Sommer, Laurence Estienne et Dominique Lain, pour une suite à l'émission de novembre. Dominique Lain qui va nous parler plus particulièrement des deux contes sortis en octobre 2017 aux éditions Élan Sud. Je vais sans plus tarder vous laisser en compagnie de mon premier invité, Serge Sommer. Serge Sommer qui est écrivain, auteur, compositeur, interprète, guitariste, conférencier, psychanalyste. Alors Serge, un homme surprenant, touchant, on peut dire qu'il revient de loin. Aujourd'hui, il est sorti de sa prison de souffrance. Aujourd'hui, il respire la joie de vivre et ça fait du bien à voir. Ses chansons, ses livres, c'est le trajet parcouru et celui à venir. Il a voulu comprendre son histoire et pouvoir aussi aider d'autres personnes à se sortir de cette dépendance qu'est l'alcoolisme. Je vous laisse l'écouter dans ce témoignage très touchant qu'il nous partage. Serge Sommer.
Serge Sommer, bonjour.
Bonjour Annick.
Alors Serge, vous avez écrit 4 bouquins, vous habitez la Drôme. Qu'est-ce que c'est qui vous a mis le pied à l'étrier pour écrire votre premier livre ?
Alors pour le premier livre, effectivement, moi j'étais plutôt un cancre à l'école, donc je ne pensais pas un jour écrire un livre. Mais bon, effectivement, si je regarde bien, comme me dit mon épouse, j'ai toujours écrit des chansons depuis l'âge de 11 ans, donc ça a toujours bercé ma vie. Je dois avoir peut-être bientôt une centaine de chansons maintenant à la SACEM. Et puis, en fait, c'est une histoire de ma vie, une épreuve qui m'est arrivée à l'âge de 35 ans, où je me suis dit, il faut absolument que je la raconte à mes enfants. Donc, c'était pas pour l'édition, je voulais vraiment témoigner de ce qui m'était arrivé, parce qu'il y a une histoire familiale où, après mon témoignage, il n'y a plus personne de cette famille-là et de cette épreuve-là, de cette aventure-là. Donc il fallait absolument que je passe le relais, que j'explique ça à mes enfants. Et là, je me suis lancé dans le premier livre, c'était en 2002. Mais je ne l'ai pas publié tout de suite, j'ai attendu 8 ans avant de le publier.
Donc vous l'avez publié aux éditions...
Aux éditions Tot en 2010.
Le titre de ce premier livre ?
Autopsie du silence. Et en fait, je raconte, pour raconter cette histoire, cette épreuve qui m'était arrivée à l'âge de 35 ans, pour qu'elle soit compréhensible, il fallait que je reparte depuis le début. Donc j'explique dans ce livre, en fait, toute mon enfance, avec les abandons qui ont été inhérents à ma vie. D'abord celui de mon père, qui est parti quand j'avais 7 ans, sans donner signe de vie, il est parti avec une femme. Et puis je me suis retrouvé seul avec une maman, alors on va dire cliniquement borderline, c'est-à-dire très anxiogène, très hystérique. Et donc moi j'étais pris à l'âge de 16 ans de tic, de toc, la trouille d'affronter le monde extérieur. Et tout seul, donc je dirais même que c'est l'alcool qui m'a à ce moment-là sauvé la vie, qui m'a permis de pas sombrer dans la psychose et d'affronter la vie. Donc ça c'est à partir de 16 ans. Et puis à l'âge de 18 ans, ma foi, il y a un homme qui se présente dans ma vie, un ami de ma mère, et qui me dit un jour en douce qu'il est mon véritable père géniteur. Donc j'apprends qu'on m'a menti depuis 18 ans, que je suis un enfant de l'adultère. Le papa qui m'a abandonné quand j'avais 7 ans n'a jamais su qu'il n'était pas mon vrai père. Il m'a laissé son nom. Et donc mon géniteur à 18 ans, je vais m'accrocher à lui, m'attacher à lui forcément, parce qu'il me manquait un père. Et puis on s'attache, on va se fréquenter pendant un an, il va même me promettre de faire une famille. Et puis un an après, petit à petit nos liens vont s'estomper et il va disparaître complètement dans la nature sans donner signe de vie. Deuxième couche, deuxième effet qui se coule. Donc là je suis encore plus dans l'alcool. À ce moment-là, je fais à peu près une bouteille de pastis par jour. Je suis objecteur de conscience dans la Drôme, j'ai les joints, je suis dans la rue beaucoup, je joue de la guitare dans la rue, je fais la manche. Et puis il va y avoir ce qu'on appelle maintenant la résilience, ou en psychanalyse ce qu'on appelle la sublimation. C'était la rencontre merveilleuse avec mon épouse depuis 25 ans, qui est toujours là à mes côtés, indispensable, et avec qui nous avons eu 3 enfants. Et avec ces 3 enfants, j'ai pu m'investir et créer finalement le père que moi je n'avais pas eu, bien que j'avais eu 2 pères, mais malheureusement, passez-moi l'expression, hypotesticulaire. Et ma foi, donc je pouvais donner à mes enfants effectivement toute cette attention, cette considération qui me semblait moins nécessaire et naturelle. Et toujours dans l'alcool quand même, à 35 ans, je commence à prendre en considération cet aspect de la maladie. Et donc je cherche à revoir mon père géniteur. Et je tombe sur ma grand-mère, une femme que j'ai connue 2-3 fois quand j'avais 18 ans, à l'occasion quand je fréquentais mon père. Et là, cette grand-mère m'annonce que mon père est mort depuis plus de 11 ans. Je vais comprendre avec une petite enquête, parce que pour elle, il est mort d'une leucémie, mais après enquête, je comprends qu'il était homosexuel, qu'il était un des premiers atteints du sida en 85. J'arrive à imaginer, à comprendre que c'est difficile de dire ça à un enfant de 17 ans, qui est déjà dans la drogue, dans l'alcool, machin. Après, il pouvait pas savoir que moi, finalement, j'aurais préféré ça qu'un deuxième abandon, parce qu'un deuxième abandon, pour moi, c'est moi qui pue de la gueule, quoi. Je sentais sous les bras ou il y a un problème avec moi. Bon, voilà. Et puis, cette grand-mère, on va avoir que 3 semaines pour parler, pour recréer ce lien. On va s'appeler pendant 3 semaines tous les jours au téléphone. Et elle va faire un AVC, elle va disparaître comme ça, 3 semaines après cette rencontre, comme si elle m'attendait pour faire la paix avec cette histoire. Et entre-temps, elle a retrouvé un papier de reconnaissance de paternité qui avait été dissimulé à la mort de mon père, par le grand-père, qui voulait pas que j'hérite sûrement, qu'on m'appelle. Moi, je me souvenais plus du tout de l'avoir signé, parce qu'à 18 ans, j'étais blindé comme une huître. Donc, il m'avait fait signer ça en vue de m'adopter éventuellement un jour. Enfin, tout expliqué dans le livre, beaucoup mieux.
On parle toujours du premier livre, Serge.
Toujours du premier livre. Et donc, je me retrouve héritier finalement de tout ce que cette famille avait, puisque mon père était le fils unique de cette femme. Et moi, j'étais l'accident de ce monsieur, donc son fils unique aussi. Après moi, cette famille et cette histoire disparaît complètement. Il m'était vraiment nécessaire d'expliquer ça à mes enfants. J'ai mis 3 semaines pour l'écrire. Et j'ai voulu mettre... Je voulais pas qu'ils jugent. Donc, je me suis appliqué à mettre aucun nom, aucun prénom, aucun lieu. Ce qui a été un exercice quand même littéraire qui n'était pas dans mes habitudes vu que j'étais un cancre. Mais finalement, j'aime les mots. Moi, je suis fan de Pierre Desproges. Les mots sont partout, dans les gros mots comme dans les mots savants. Les mots sont fleuris à partir du moment où on les chope et on les assemble ensemble comme un puzzle, quoi. Et voilà, je termine ce livre un petit peu sur cette note, avec cette possibilité, grâce à cet héritage, de faire le choix d'être père au foyer pendant 10 ans. Et voilà, les 2 premiers enfants, en fait, parce que le 3e, j'en parle dans le 2e livre, les 2 premiers enfants, j'avais beaucoup de temps pour eux, puisque j'étais barman de nuit, ce qui est pas très bon quand on est alcoolique, mais bon, c'était une vocation, forcément. Et donc, j'avais quand même du temps dans la journée, mais c'était mon épouse qui était au foyer. Puis, au bout d'un moment, elle en avait un petit peu, elle avait besoin d'une vie sociale. Puis moi, dans un pub de nuit, je vous garantis que la vie sociale, j'en avais un peu soupé. Donc, j'ai eu vraiment le souhait d'être père au foyer. Ça a été les 10 plus belles années de ma vie. Je vis des choses merveilleuses maintenant, mais j'ai l'impression de d'occuper mon temps, si vous voulez, à faire ce que j'aime, quand j'étais petit, écrire, élaborer ma pensée, écrire des chansons, inspiration. Je m'amuse beaucoup. Mais mon vrai travail, je crois que, je l'ai fait, c'était d'être un phare, d'être avec mes enfants. Et c'est vrai que des fois, je me sens un peu dépourvu, comme la cigale quand l'hiver fut venu. Je me dis, mes enfants sont grands, je peux plus les consoler en les portant, en les prenant dans mes bras. Et je me dis, j'ai plus rien à faire, je suis devenu inutile. J'exagère un peu, mais ouais, voilà, c'est pas parce que je suis devenu psychanalyste que je suis pas toujours en analyse moi-même. Le fait d'avoir des patients, c'est aussi, on continue son analyse parce que il y a des choses à travailler sur notre positionnement dans la vie.
Justement, Serge, qu'est-ce que c'est qui vous a amené à aller donc faire des études pour devenir psychanalyste? Qu'est-ce que c'est qui vous a amené à ça?
Mais pareil, moi je marche à la passion, je suis quelqu'un qui marche au cœur, pas à la raison du tout. 10 ans après l'écriture d'Autopsie du silence, donc vu que je l'ai publié en 2010, ça a été en 2012, donc 10 ans après l'écriture qui était en 2002. Il y avait pas mal de gens qui avaient lu le premier qui me disaient, moi, ce serait bien que tu écrives la suite, t'as eu un troisième enfant, machin, tout ça et tout. Alors je me disais, ouais, ce serait pas mal. Puis le premier, c'est vrai que il y a eu un, entre guillemets, un succès local, parce que effectivement, je racontais pas une histoire stérile, vu qu'il y a pas de, je racontais pas l'histoire stérilement, larmoyant, de à se victimiser. Moi, mon idée, c'était de partager et d'avoir en face de moi des gens qui me disent, ah ouais, bah, t'as mis des mots sur ce que j'ai ressenti à tel moment, je suis passé par la même émotion, tout ça. C'est ça qui me fait kiffer, quoi. Et du coup, bah, je me dis, bah, voilà, je vais commencer à écrire la suite, raconter pourquoi. Donc, dans le deuxième qui s'appelle Au-delà du Verbe, qui a été publié en 2014 aux éditions Baudelaire. Donc, j'ai commencé à écrire la suite. Je suis toujours alcoolique, parce que le premier était thérapeutique, hein, quand on écrit son histoire, oui, tout à fait, mais pas suffisamment pour m'enlever de l'alcool. Et puis, bah, il y a eu des aventures, donc je raconte qu'est-ce qui s'est passé depuis le premier, qu'est-ce que ça fait de montrer son cul à tous les passants, en fait, de dénuder son ego. Et donc, j'écris la naissance du troisième enfant, puis le troisième enfant a une craniosténose. Faut aller l'opérer. Alors j'ai l'impression de l'abandonner parce que je peux pas le suivre jusque dans la salle du chirurgien. Et puis quand il revient, ben sa figure a un peu changé. Donc j'ai du mal à le reconnaître. La reconnaissance est à la base du symbolisme de mon problème d'enfance. Donc ça va être très très souffrant. Ça va me plonger en 2007 dans une dépression nerveuse très sévère. Et suite à 4 psychothérapies, dont 2 spécialisées en alcool, la psychanalyse m'a permis d'aller plus profondément. En fait, c'est autant la psychologie que j'ai pu appliquer dans la psychothérapie m'a aidé à reconstruire mon histoire. C'est essentiel de commencer par la psychothérapie. Reconstruire son histoire, refaire le lien, comme dirait Boris Cyrulnik, refaire le fil rouge. Et ensuite, la psychanalyse, pour mon cas en tout cas, a été très révélatrice de ce qui se passait viscéralement dans mon inconscient, ce que je ne m'autorisais pas à dire, ce que je ne m'autorisais pas à penser, à souffrir, à ressentir, à émouvoir en tout cas. Et on est allé beaucoup plus loin. Ces 6 ans de psychanalyse m'ont amené effectivement, en 2013, alors on va dire à la catastrophe, puisque je n'ai jamais bu autant qu'en 2013, mais parce que effectivement le fond de la piscine était touché. Avec cet accompagnement de psychanalyse, j'arrivais vraiment à soit m'accepter tel que j'étais, hypersensible, soi-disant fragile, mais finalement cette hypersensibilité n'est-elle pas une force? Parce que finalement, on a un nez, on a une intuition plus que les autres, donc c'est peut-être une force aussi. C'est à réfléchir en tout cas. Et donc, pendant cette dépression aussi, il y a mon meilleur ami d'enfance qui meurt d'un cancer du pancréas. On va se voir, il venait juste de refaire sa vie, il avait un bébé de 3 mois, il avait envie de vivre, il savait qu'il était obligé de mourir. Alors que moi, c'était le contraire, j'étais au milieu d'une dépression sévère. J'aurais tellement aimé mourir pour me soulager, mais j'étais obligé de vivre parce que ce sentiment de moi abandonner mes enfants était insupportable puisque moi je l'avais été. C'était inconcevable. Donc j'étais dans une prison à être obligé de vivre sans pouvoir envisager un seul moment de mettre un terme à ma vie, non pas par un suicide en tant que tel, mais un soulagement à mes souffrances tout simplement. Et les gens en dépression reconnaîtront ce que je veux dire.
Tu sais, quand les vents du passé ramènent comme un parfum subtil, comme des images au bout des cils, le temps fémine de cesser. Alors tu t'assois, te reposes, tu prends le temps de regarder. C'est con un jour de regretter d'avoir oublié de belles choses. Il y a tes yeux que tu revois, et c'est comme un souffle d'air pur, un sentiment qui devient mûr et que tu veux cueillir en toi. Tu sais, on dessinera la terre de la couleur qu'elle préfère. Et si son rire me libère, j'aurai vaincu toutes les guerres. Tu sais, quand les vents du futur t'amènent comme un parfum d'espoir, les images que tu voudrais voir, mais qui se perdent dans l'usure. Alors tu te lèves, tu repars, ne prends pas le temps de souffrir. Y'a parfois des mots dire à dire, comme des souvenirs de quelqu'un. Il y a des yeux qui hantent encore, et c'est comme un amour qui brûle, mon cœur qui part en petites bulles. cette envie la serrer très fort.
Donc quand je commence ce livre, il y a des choses très souffrantes, parce que quand je veux raconter, ben, par exemple, mon ami d'enfance, que je veux raconter mon enfant à l'hôpital, je veux écrire vrai. Je veux que le lecteur, il ait l'émotion, parce que sinon c'est de l'écriture stérile, quoi. Ça sert à rien, autant écrire dans sa chambre. Voilà, il faut que je replonge dedans. Et pour replonger dedans, j'ai besoin de ma bouteille de Jack Daniels. J'arrive en 2013, je suis à 1 litre de Jack Daniels par jour, entre le jour et la nuit à peu près. Avec, vu que je commence à me soigner sérieusement, ça me fait un cocktail en plus d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, de thymorégulateurs, de neuroleptiques, un petit paracétamol codéiné pour pouvoir avoir la tête un peu plus légère après ça, un petit joint pour garder le sourire le matin. Et puis bien sûr un IPP comme l'Inexium ou le Mopral, parce que sinon j'aurais jamais digéré ça, mon estomac serait parti en vrille. Donc voilà, à un moment donné, mon épouse prend les enfants sous le bras et dit non, faut pas qu'ils voient ça, parce que vraiment là tu t'abandonnes. Tu n'arrives pas à voir le diamant qu'il y a au fond de toi. Et je le voyais pas. Elle le voyait, elle me le disait, mais je la croyais pas vraiment. Et finalement, j'ai eu un peu le choix de passer l'arme à gauche ou non. Et j'ai commencé une première cure de désintox. Mais cette première cure de désintox, j'ai le malheur de tomber dans une clinique privée. Et une clinique privée, un truc privé, je suis désolé, mais c'est là pour faire du profit. Hein. Donc en plus de mes médocs, ils me rajoutent du Valium. Et puis vu que les week-ends, vu qu'il n'y a aucun suivi thérapeutique, quand j'ai une permission, je vais m'acheter une flasque au bar du coin, hein, pas rêver. Donc avec le Valium en plus, je suis bien défoncé et tout. Je dis que des conneries, je pleure tout le temps. Et puis en fait, ils s'assurent de me soulager pendant que j'y suis, et que quand je sorte, ça aille mal, comme ça je reviendrai, quoi. C'est le principe un petit peu du capitalisme et du socio-libéral. Après, on va pas faire de politique. Donc après, finalement, je me retombe dans la merde, parce qu'en sortant de cure d'un mois et demi, je me tape une bouteille entière de Jack Daniels. Et ça va de pire en pire, jusqu'à une nuit où j'ai vraiment l'impression que je verrai pas le jour se lever. Et puis je vois le jour se lever, je me dis merde, alors parce que je me voyais vraiment dans l'hépatite, vraiment tellement mal physiquement, que j'étais à deux doigts d'appeler les urgences. Je me voyais comme mon père, parce que mon faux père qui est parti à l'âge de 7 ans, il est mort d'une hépatite, on l'a retrouvé le matin dans une flaque de sang qu'il avait vomi. Je me suis dit voilà, la dernière image que mes gamins vont avoir de moi, cool. Et là je téléphone au centre d'alcoolologie, je dis je peux voir un psychologue, il n'y en a pas, on est en mois d'août, j'en ai. Et puis la secrétaire, elle sent quelque chose, elle me dit « Monsieur Sommer, venez me voir parce que je vous sens pas bien, on en parle juste, vous êtes obligé de rien, venez me voir. » Et puis, de là, s'enchaîne cette empathie. Je
suis le conducteur de quelque chose.
Voilà, cette bonne parole au bon moment. Elle a trouvé ma temporalité, elle a trouvé le truc qui fait qu'une semaine après, j'accepte de voir le médecin addictologue qui, lui, me trouve une semaine après une place à Saint-Galmier, un établissement de cure dans la Loire qui est un centre mutualiste. Et là, j'arrive avec l'intention de me soigner. Je le fais pas comme la première, avec un peu pour faire plaisir aux autres, pour me donner une chance. Mais finalement, je suis tellement mal que, j'ai pas en face en plus le répondant, donc ça marchera pas. Là, je suis quand même plus convaincu. Et puis en face de moi, j'ai des gens qui se convient de me soigner, qui mangent avec nous au réfectoire à table, il y a un investissement plus humain, plus empathique. Moi qui pensais être géré toute ma vie, j'arrive à la fin de ce livre, à l'avant-dernier chapitre, à prendre la décision d'être abstinent et de jouer le jeu. Et depuis le 5 novembre 2013 où je suis rentré dans cette cure, j'ai pas retouché une goutte d'alcool. La chose était juste, c'était le bon moment. Et depuis, le paradoxe, la sublimation ou la résilience, je ne sais pas, la petite ironie du sort, c'est que moi qui étais un cancre, c'est les écoles qui m'appellent, l'IFSI, l'école d'infirmières, l'IREIS, qui forme les assistantes sociales, les éducateurs spécialisés, pour apporter mon témoignage, donner des conférences, pour dire ce qui se passe de l'intérieur, parce que le protocole c'est important, mais, et puis j'insiste surtout, une personne, c'est une boule à facettes. Si une personne qui a un problème, le problème est souvent plurifactoriel. Donc on aborde ça par la pluridisciplinarité. par plusieurs disciplines différentes et par la transdisciplinarité. La dictologue doit écouter l'aide-soignante, qui doit même écouter l'ASH. Parce que je vais peut-être dire des choses à l'ASH, j'oserais pas dire des choses à la dictologue parce qu'avec sa blouse il m'impressionne, je vais les dire à l'ASH. Si l'ASH va dire au médecin, monsieur Sommer, je le sens pas bien ce soir, que le médecin lui dit, occupez-vous du ménage, vous c'est pas votre domaine, bah, c'est un connard. Et on en a des connards. Hein. Si on les peignait en vert, on aurait l'impression d'être à la campagne.
Alors Serge, le troisième livre, bah, c'est un album de vos chansons, parce que vous êtes aussi auteur, compositeur, interprète.
Ben oui. En fait, quand j'avais 6 ans, je savais moi que j'étais chanteur et noir. Et donc moi, on m'a dit, comme tous les enfants, mais tu seras jamais chanteur, faut pas rêver, nanana, parce que pour les gens, chanteur, c'était Patrick Bruel. On m'a pas dit qu'il y avait des possibilités, comme je fais maintenant, d'être dans les cafés, les restos, et de vivre chichement, modestement, mais de vivre de sa passion. C'est ce que je fais maintenant, je suis très heureux. Mais quand j'étais petit, ah ben non, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus, hein, si tu crois que tu deviendras une star. Mais moi, je veux juste chanter, moi. Ah ben oui, mais maman, en plus, t'es pas noir. Ah, mais maman, bon, voilà.
The bright blessed day, the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow are so pretty in the sky, and also on the faces of people going by. I see friends shake hands, say, how do you do? They really say, I love you. I hear baby cry. I watch them grow. They learn much more than I ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh yes.
Et donc forcément, bah voilà, après à 12 ans, j'ai remis le couvert. Maintenant, j'écris des vraies chansons en français, tout ça, parce qu'avant, c'était du lavabo. Oui, mais bon, t'as appris le solfège ? Non, pourquoi faire ? Moi, je fais d'oreille. Ah ben, si t'apprends pas le solfège, ça veut dire que t'aimes pas la musique. Les gens qui aiment la musique font le conservatoire et commencent par le solfège. Oh là, les gens, il leur faut toujours une justification, une légitimation. Si t'as pas le diplôme, t'es pas un vrai. Si t'as pas fait le solfège, t'es pas un vrai. Si tu fais, moi je vois même dans mon métier, il y a des musiciens qui me méprisent parce que j'ai des compos, mais bon, je vais pas me la ramener avec toutes mes compos, j'aime bien faire des reprises, je m'éclate avec les reprises. Dans les cafés-restaurants, les gens ils sont pas là avec ce que ça a à foutre d'écouter les compos, ils sont là pour faire la fête. Alors on partage du Otis Redding, du Gene Joplin, des trucs qui nous ébandaient quand on était jeunes, tout seul devant la glace avec une brosse à cheveux. Mais pour certains musiciens, non, si tu fais pas de la compo, tu fais de la reprise, t'es un groupe de balles, quoi. Faut se faire plaisir dans la vie.
Alors Serge, vous avez donc votre troisième livre, donc c'est un album de chansons. Et quatrième livre, alors là, c'est plus de vous, quoique c'est beaucoup plus général, c'est peut-être de l'humain, donc qui est sorti là, début septembre. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce livre ?
Alors le sous-titre, c'est 114 paroles de Jésus à la lumière de la psychanalyse. Et le titre, c'est « Paroles de divin sur le divan ».
Aux éditions
Sogaris, une nouvelle fois. Et en fait, c'est un document qui s'appelle « Évangile selon Thomas », qui est un manuscrit qui comporte 114 paroles de Jésus, qui sont brutes comme ça, où on parle ni de ses miracles, ni de sa résurrection. Il n'y a que ses paroles, son enseignement. Et qui date qu'on trouvait entre le 1er et le 4e siècle. À partir du 4e siècle, il y a les hérésiologues, c'est-à-dire les pères de l'Église qui jugeaient ce qui était hérétique et ce qui était bon pour l'Église qu'on avait le droit de lire, ont jugé que cet écrit était complètement hérétique. Ils l'ont pourchassé et ont détruit tous les exemplaires qui existaient, sauf certains scribes qui ont pu enterrer des exemplaires, et on en a retrouvé un seul, entier, parce qu'on en a retrouvé quelques fragments en 1897 sur le site d'Oxyrhynque et en 1904 sur le site d'Oxyrhynque aussi en Égypte. Et on a retrouvé un exemplaire entier en copte, en 1945 sur le site de Nag Hammadi en Égypte. Et ben moi j'ai connu dans ma jeunesse, j'explique comment, un peu par hasard, Émile Gilabert, qui a été un des grands traducteurs et commentateurs de cet évangile, de ces paroles, et qui s'appliquait à les ramener, à montrer qu'en fait effectivement elles ont été chassées par l'Église parce qu'elles n'ont rien à voir avec l'Église, elles ont plus à voir avec les pensées orientales, les Védas indiennes, le taoïsme, les paroles de Confucius, etc. Et donc ce monsieur m'a donné envie, j'ai acheté son livre et il m'a passionné, j'avais 20 ans à l'époque, c'était en 1987. Donc ça fait 30 ans que ce livre est mon livre de chevet, il m'accompagne. 114 paroles, étonnamment, comme le nombre de sourates qui composent le Coran. Je ne sais pas pourquoi encore, j'ai pas réussi à savoir pourquoi. Et ce livre m'a accompagné à chaque épreuve, je me remettais le nez dedans et effectivement je trouvais les nuances un petit peu à chaque fois. Alors dans ces 114 paroles, il y en a à peu près la moitié qu'on retrouve dans les évangiles connus, Matthieu, Marc, Luc, Jean, mais avec un sens différent, des paroles rajoutées qui lui donnent un sens différent. Et l'autre moitié qu'on ne connaissait absolument pas. Et elles ont été pourchassées par l'Église, bien évidemment, parce que, en fait, le principe de base de ces paroles, c'est que Jésus ne parle jamais de Dieu. Est-ce que Jésus croyait en Dieu? J'en sais rien, mais on peut se poser la question. Ces paroles sont, en fait, une posture de sagesse et de posture thérapeutique. C'est-à-dire que il amène à l'idée que c'est par la connaissance de soi et l'acceptation de sa réelle nature, qui se trouve dans son inconscient et qu'on se cache avec l'ego, avec nos masques, c'est dans cette acceptation et cette conscience qu'on trouvera ce qui est incréé en nous, alors on rejoint Lao Tzu et le taoïsme, et que finalement on découvrira le paradis qui est ici et maintenant sous nos yeux. Ce qui ne pouvait pas du tout rentrer en résonance avec les pères de l'Église sous l'influence de Saint Paul, qui, voulant faire la paix avec les Romains qui étaient les envahisseurs, stopper la guerre civile de l'époque qui avait lieu sur place, et donc en faisant corréler les paroles du dernier militant philosophe avec la tradition ancienne, ce qu'on a fait dans toutes les religions, jusqu'au bouddhisme qui était envahi par la Mongolie à l'époque, on a fait dire à Jésus le contraire de ce qu'il disait, c'est-à-dire au lieu de se connaître soi, il faut connaître les paroles de Dieu, en ayant confiance que le mec qui les a écrits, ce soit bien lui qui les a écrits, qu'il les ait bien entendu. Et justement, pas se faire confiance à nos propres sentiments, parce que c'est le mal, c'est le diable. Non, écoutez les paroles de Dieu pour, si t'es sage et t'as bien mangé ta soupe, avoir un paradis après et ailleurs. Ce qui fait qu'on vit toute notre vie à côté de nos pompes, à côté de l'essentiel. Et du coup, l'inconscient, lui, il sait ce qu'on a besoin. Alors il se rebelle, alors il commence à nous envoyer des actes manqués, des lapsus. Puis si on comprend toujours pas, on a des épreuves terribles. Et si on comprend toujours pas, on commence à avoir des petites maladies, on psychosomatise. Et puis si on comprend toujours pas, on va se faire une grosse maladie. Et puis c'est là que les gens se disent, après un deuil, après une grave maladie, quand ils en sortent, il a changé de philosophie de la vie, c'est fou ce qu'il a changé. Oui, il a vu l'essentiel, il a vu la vie en face. Il n'est plus dans le masque. Et vu que après mon dernier livre, ma psychanalyse m'avait tellement intéressé, j'ai eu envie d'aller plus loin. Donc pour répondre à votre question tout à l'heure, excusez-moi, je suis bavard, c'est mon côté féminin. Je plaisante. J'ai voulu suivre une formation, effectivement, pour en savoir plus. Et puis à un moment donné, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais le royaume du Père dont parle Jésus, c'est le père, c'est l'enfant. L'enfant en tant que père de l'adulte, l'enfant en tant que l'enfant qui est en nous, qui a créé l'image de l'adulte pour pouvoir faire une interface avec la société. Et le royaume du Père que nous invite à retrouver Jésus, c'est ce royaume intérieur de l'enfant que tous les sages de Lao Tzu, Confucius, Bouddha, etc., même dans les accords toltèques, on le retrouve même chez les aborigènes, on le retrouve dans plein de cultures. C'est effectivement, dans l'inconscient, la personne qu'on a toujours été. L'enfant, il n'est pas en arrière, il n'est pas avant, il n'est pas dans le passé. Il est là, c'est le seul qui est vivant. Et là, je me suis dit, mais les paroles de Jésus ont une corrélation avec la psychanalyse qui est incroyable. Et d'ailleurs, à ce titre, l'Église, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, a hurlé sur la psychanalyse, comme quoi c'était le diable. Ils ont brûlé des livres de psychanalyse. Donc on comprend mieux le lien qu'il y a entre les deux. Alors voilà, j'ai voulu découdre ça, non pas pour amener quelque chose d'essentiel, de définitif, mais pour amener un angle de vue que je trouvais original. Puis le fait de l'écrire, moi ça me vide le disque dur, donc je pourrais enfin envisager d'écrire autre chose.
Justement, j'allais y venir. Écrire autre chose, est-ce que vous avez déjà des idées d'autres écritures?
Oui, ben, y a toujours les chansons, hein, au fur et à mesure de la vie, de l'inspiration, les chansons qui arrivent. Et puis, un jour, j'aimerais bien écrire pour, par rapport aux enfants.
Alors, Serge Sommer, donc, vous, on peut vous retrouver facilement, on peut retrouver aussi vos livres facilement.
Oui, je suis inscrit sur Dilicom, donc, dans toutes les librairies, on peut me commander, à la Fnac, sur Amazon, n'importe où.
Vous avez un site, une page Facebook ?
Tout à fait, une compte Facebook Serge Sommer et une page pour chacun des livres. Et le site s'appelle www.sergesommer.com. Serge Sommer tout attaché et Sommer s'écrit S-O-M-E-R.
Merci Serge.
J'ai tout dit, je vous remercie Annick, à bientôt.
Écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Je vous redonne les titres des livres de Serge. Autopsie du silence aux éditions Tot en 2010, un livre qui est sorti en 2010 et qui est un livre autobiographique. Au-delà du verbe aux éditions Baudelaire en 2014. Entre nulle part et n'importe où aux éditions Sogarus en 2015. Ça, c'est un livre CD original qui est constitué d'un recueil de 69 de ses chansons françaises qu'il commente avec recul et humour. Et son tout nouveau, Paroles de divin sur le divan, sorti en septembre 2017 aux éditions Sogarus. Laurence Estienne, qui vient elle aussi avec un livre témoignage, nous parler de la souffrance, de la maladie. Elle nous témoigne dans un de ses ouvrages de sa maladie. Une souffrance qui a duré 8 ans, sans solution. Aucun traitement prévu par la médecine traditionnelle. Laurence Estienne nous raconte comment elle n'a pas baissé les bras et a cherché des solutions à cette maladie. Elle s'est battue et a retrouvé la joie de vivre dans un corps libéré de la maladie. Un livre témoignage qui a pour titre « Adieu fibromyalgie, comment gagner 20 ans
et retrouver une bonne santé. Lecture du quatrième de couverture du livre Adieu fibromyalgie. Il est des jours que l'on aimerait effacer de notre vie, des douleurs aiguës, des souffrances physiques et mentales qui sont ancrées dans notre mémoire. La fibromyalgie vous emprisonne, vous capture, vous vole votre intimité, votre dignité, vous perce à jour, alors soumis au plus profond de votre moi intérieur, de subir ces assauts répétés. Une maladie envahissante et invalidante qui enlève toute énergie, toute vie sociale et toute liberté de mouvement. Notre corps, jusqu'alors notre allié, devient une source de contraintes inimaginables. Au rythme de ses réactions aussi saccadées que lentes et limitées, s'attachant à nous emprisonner au 90e étage de l'arbre de notre vie. Quel est ce mal méconnu, invisible et sournois, qui nous vole 20 ans de notre vie en une seconde et nous rend otage d'un destin qui ne nous appartient pas. J'ai souhaité ce livre en hommage à tous ces êtres souffrant dans leur chair de fibromyalgie qui, par leur courage et leur immense force de vie, vont pouvoir certainement briser les liens qui les retiennent captifs et enchaînés au passé. Je leur donne l'espoir de retrouver leur jeunesse et leur vitalité trop vite perdue. Cet ouvrage offre une vision concrète de la fibromyalgie et éclaire sur une réflexion et des solutions pertinentes. On retrouve dans cette interview Laurence Estienne. Laurence Estienne, bonjour.
Bonjour.
Alors Laurence, vous êtes née en mars 65 à Avignon.
Oui, tout à fait, Avignon.
Vous avez commencé à écrire de la poésie, à commencer des ébauches d'écriture, on va dire. À un moment donné, il y a eu quand même un élément déclencheur qui a fait que vous avez quand même sorti 5 livres en peu de temps. Alors racontez-nous un petit peu comment tout ça a commencé pour vous.
Oui, en effet, j'aime écrire. Je ne m'en rendais pas vraiment compte. Quand j'étais jeune, j'ai écrit quelques poèmes, vers 30 ans aussi, comme ça, quand j'avais l'inspiration. Puis j'ai laissé comme ça, chez moi, tranquillement, je le mettais dans un pressbook. Et puis c'est vrai qu'il m'est arrivé un problème de santé qui a réveillé en moi des douleurs physiques et mentales et puis qui m'a en fait fait ressortir ce désir d'écriture.
Et c'était quoi justement ce problème de santé? En quoi ça consistait exactement?
Alors, j'ai une nuit, je me suis retrouvée avec des douleurs dans le poignet droit et puis je me suis rapidement retrouvée avec une inflammation musculaire généralisée sur tout le corps, avec une possibilité de bouger, de me baisser, de lever les bras, fermer les mains. J'étais dans un carcan à 40 ans, l'année de mes 40 ans, quel sacré cadeau. Plus pouvoir bouger, raide comme un piqué. Je donne l'image de Playmobil, en fait. J'étais comme un Playmobil avec les mains, voilà, et toutes les raideurs bloquées complètement.
Et on appelle, c'est une maladie qui s'appelle comment ?
Alors, la fibromyalgie, elle est reconnue récemment par la Sécurité sociale, mais donc je remonte à 2006. À l'époque, on ne posait pas trop le diagnostic, on m'en parlait, mais bon, on ne savait pas trop. Mais il s'avère que c'était bien ça.
Donc là, quand vous avez appris que vous aviez cette maladie, qu'est-ce qui s'est passé donc pendant toutes ces années où vous étiez avec cette maladie ?
J'étais triste dans mon coin puisque la médecine ne nous apportait aucun soutien. Tous les patients attendent justement des solutions et encore parce qu'il n'y a pas de médicaments fiables, il n'y a pas de solution. Voilà. Et donc je me tairais dans mon coin à ne pas pouvoir ni sortir ni profiter de la vie puisque je pouvais pratiquement rien faire. Couper de la viande, c'est difficile, faire le lit devenait difficile, passer aspirateur, etc. Donc je m'adaptais à un quotidien difficile.
Donc vous avez vécu cela pendant 8 années ?
Oui, 8 ans où j'étais complètement bloquée dans un corps qui ne m'appartenait pas. Je me trouvais une inconnue dans ce corps. Mon cerveau marchait bien, parce que je ne me suis jamais arrêtée de travailler, mais voilà, j'étais handicapée en fait. Et puis un jour, je cherchais quand même des solutions, parce que je ne croyais pas à cette médecine impuissante. Et je suis arrivée à une rencontre qui je peux dire, a sauvé ma vie et mon quotidien, avec un stomatologue qui a trouvé les origines de ce mal.
Et justement, comment vous en êtes arrivé en définitive à vous rendre compte que c'est avec un stomatologue justement que les choses allaient s'ouvrir pour vous ?
Bon, c'est une rencontre qui est arrivée par hasard, mais en fait, il connaissait très bien son métier, le fonctionnement du corps humain. C'est qu'en fait, le stomatologue, bon, il est spécialiste de la bouche et des mâchoires. Et en fin de compte, quand je suis allée le voir, il m'a dit que ma bouche représentait une centrale nucléaire, comme Tchernobyl, parce qu'en fait, j'avais beaucoup de prothèses et de dentaires et d'amalgames qui ne sont pas des plombages classiques comme fait du plomb, mais qui sont constitués de 50% de mercure et d'autres, un alliage aussi de métaux nocifs pour la santé. Donc ce mercure, par des vapeurs, à chaque mastication, part dans les organes vitaux. Et puis un jour, le corps, il n'en peut plus et il dysfonctionne. Donc le corps, mais vous avez mal d'un côté et de l'autre. Enfin, moi, j'étais tendue partout. Et puis, vous en sortez plus, quoi.
Et à quel moment vous avez commencé donc à penser, à peut-être à prendre des notes pour justement commencer à écrire ce livre qui s'intitule
« Adieu fibromyalgie, comment gagner 20 ans et retrouver une bonne santé ». J'ai commencé au cours de mes soins, en fait, parce que chaque dent qui était soignée se répercutait sur mon corps. J'avais un bénéfice incroyable. C'est-à-dire que la première fois que le stomatologue m'a enlevé la couronne, donc la dernière couronne qui avait été posée après la naissance de ma fille, 8 ans auparavant, j'ai pu me baisser, j'ai gagné 20 cm d'un coup, donc en me baissant en avant. Donc c'était magique pour moi. Chaque fois, je marquais dans un tableau, je marquais tous les bénéfices à chaque dent soignée. Et j'avais en fait une mine d'or entre les mains, puisque j'avais vraiment les actions réalisées.
Ce livre, vous avez commencé comme ça, petit à petit, à l'écrire, jusqu'à sa sortie en 2015, c'est ça ?
Oui, j'ai sorti en version numérique en décembre 2015 et puis en février 2016 en version papier. Je suis auto-éditrice, j'ai voulu le lancer au plus vite auprès d'Amazon d'abord, et puis ensuite je l'ai diffusé dans toutes les librairies.
Et là, vous parlez vraiment de toute votre expérience de A à Z, de ce que vous avez vécu pendant ces 8 années de carcan.
Oui, tout à fait. Donc le livre est en 3 parties. D'abord, il raconte mon histoire personnelle, comment j'ai vécu tout mon quotidien difficile. Ensuite, je donne des conseils de vie pour des choses pratiques, utiliser pour la cuisine ou surélever les meubles, pour par exemple le canapé, pour essayer de s'asseoir plus facilement, enfin voilà, des astuces comme ça au quotidien. Et la troisième partie, donc la solution, d'où vient le problème, et ça vient donc de la bouche, des mâchoires, parce qu'il y a 4 origines dentaires.
Donc voilà, un livre bien, bien riche en conseils, riche, je pense, en tout domaine. Alors, vous ne vous êtes pas arrêté là, vous avez continué parce que vous aviez des petits livres comme ça que vous aviez mis de côté, vous aviez commencé à écrire, parce que vous êtes quand même une passionnée de l'écriture. Donc vous avez mis ces petits livres de côté, vous les avez terminés en définitive en une année, vous avez écrit pratiquement 5 livres.
Oui, c'est vrai, je m'étonne moi-même, mais quand je suis passionnée, je vais jusqu'au bout. Donc j'ai commencé à sortir, éditer le livre sur la fibromyalgie, puis ensuite j'avais un roman dans ma tête qui était là depuis longtemps, un roman familial, saga familiale depuis sur plusieurs générations de femmes sur Avignon. J'ai sorti Petite étoile de Provence, un roman, parce que je voulais donner un héritage à ma fille sur notre histoire familiale, mais c'est vrai qu'avant on n'avait pas beaucoup d'informations, donc j'ai brodé, voilà comment est sorti le roman. Ensuite j'ai ma fille qui a maintenant 13 ans. Donc elle aime bien les histoires, donc j'ai commencé à écrire un conte illustré sous l'océan, une histoire d'amitié en fait, sous l'eau, des poissons avec des sirènes. J'ai fait des aquarelles, je l'ai illustré.
L'âge à peu près de ces ouvrages, c'est quoi? C'est des 8-12 ans?
Oui, tout à fait, 8-12 ans. Ensuite, je me suis mise à faire un autre roman parce qu'il plaisait beaucoup à ma fille. Et donc j'ai commencé un roman pour les collégiens en fait, 10-12 ans. Et puis là, c'est un livre sur l'Inde. Au pays des Maharajas, une intrigue, un voyage initiatique, un jeune prince qui part en voyage, et puis encore une énigme à découvrir et des beaux paysages.
Donc là, c'est pour des romans, et puis là, vous êtes plus sur de la poésie. Vous avez écrit un recueil de poésie.
Oui, c'est ça, un recueil de poésie, en fait, de poèmes que j'avais écrit il y a quelques années. J'étais plus jeune, mais j'ai voulu le récapituler dans un livre, faire un recueil d'amour et d'amitié, s'intitule, et j'en suis fière.
Donc toute la thématique de ce recueil de poésie, c'est sur l'amour et sur l'amitié. Vous êtes toujours en activité ?
Oui, oui, je travaille, oui, à temps complet. Je suis dans la fonction publique et d'État. Mais je me consacre du temps en cumul d'activités pour mes livres. Parce que j'adore ça. Donc je fais même des conférences sur la fibromyalgie.
Vous êtes une passionnée, on pourrait dire, non ?
Ah oui, tout à fait. Je m'amuse en fait. Hein. Je n'ai pas l'impression de travailler, mais...
Vous avez retrouvé la joie de vivre là, depuis que vous êtes sortie de ce corps enfermé
Ah oui, oui, je me sens toute jeune, je suis comme une collégienne, j'ai envie de m'amuser, voilà. Non, c'est un travail sérieux, mais vraiment je me régale.
Vous pouvez le faire avec le cœur.
Hein. Ah oui, avec joie, avec beaucoup de cœur, de passion.
Merci Laurence Etienne.
Merci.
Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Laurence Etienne, une auteure qui a démarré en éditant son premier ouvrage en décembre 2015 et depuis a sorti 5 livres en auto-édition aux éditions Plumissime. Vous pouvez retrouver tous ses ouvrages sur son site plumissime.fr ou en librairie Fnac, Amazon. Je vous laisse maintenant en compagnie de Grand Corps Malade pour un temps musique avec une chanson extraite de son album Midi 20 de 2006. Le jour se lève.
Le jour se lève sur notre grisaille, sur les trottoirs de nos ruelles et sur nos tours. Le jour se lève sur notre envie de vous faire comprendre à tous que c'est à notre tour d'assumer nos rêves, d'en récolter la sève pour les graver dans chaque mur de pierre. Le jour se lève et même si ça brûle les yeux, on ouvrira grand nos paupières. Il a fait nuit trop longtemps et avancer sans lumière nous a souvent fait tâtonner. Personne n'a pardonné, si on est là aujourd'hui, c'est juste qu'on n'a pas abandonné. On a cherché la lueur de l'aube en sachant qu'elle avait la couleur de l'espoir. On s'est armé de nos stylos pour écrire nous-mêmes la suite de toute cette histoire. Le jour se lève, sort de sa grève, c'est grave à quel point la nuit a été agitée. On en a de belles à raconter, même si j'imagine que ce sera sûrement loin de tes JT. Le soleil éclaire notre papier qu'on avait gratté dans l'ombre pendant toute la nuit. La chaleur fait couler l'encre, nos mots quittent nos cahiers, nos voix sortent de l'ennui. Alors nous allons prendre la parole, monter sur scène pour un moment, j'espère que t'en as conscience. Fini la patience et la méfiance, on s'offre simplement avec l'écriture une renaissance. Le jour se lève et son glaive de lave nous lave des peines et douleurs du passé. Notre avenir est lancé, tu nous écouteras et diras franchement ce que t'en as pensé. Le jour se lève et la joie se livre, la soif se lit sur nos lèvres, tu devrais nous suivre. Si notre heure est brève, nous allons quand même la vivre, nous ne sommes pas bons élèves, mais l'envie nous enivre. Alors à ton tour, ouvre les yeux, approche-toi et observe avec curiosité le souffle et l'enthousiasme d'une brigade de poètes sortis tout droit de l'obscurité. Ne prends pas ça pour de l'arrogance, mais on sent que c'est notre heure et ça fait du bien. Notre passion va nous nourrir et je vais retrouver le sourire dans le regard de tous les miens. Le jour se lève, on le doit peut-être qu'à nous. Et quand je dis ça, c'est pas juste une métaphore. Le jour se lève et si ça se trouve, c'est uniquement parce qu'on l'a espéré assez fort. Le jour se lève sur notre grisaille, sur les trottoirs de nos ruelles et sur nos tours. Le jour se lève sur notre envie de vous faire comprendre à tous que c'est à notre tour. Notre futur est incertain, c'est vrai que ces deux mots-là vont toujours de pair. Mais notre jour s'est bien levé, dorénavant il sera difficile de nous faire taire.
Nous poursuivons cette émission avec Dominique Lin. Dominique Lin qui était mon invité en ce mois de novembre dernier et que nous retrouvons pour une deuxième partie. Il va nous parler de ses deux tout nouveaux contes sortis en octobre de cette année, donc 2017. Des contes pour enfants, petits et grands. Dominique Lin.
Alors Dominique, vous avez donc édité en octobre Un goût de terre dans la bouche, mais aussi deux petits contes adorables qu'on lit très facilement, La cascade et Le nuage blanc, illustré, aquarelle de Nathalie
Desperges-Boucatem.
Un petit ouvrage bien illustré avec des aquarelles, c'est vrai que ça fait très doux. comme ambiance?
Bah, disons qu'à force de m'adresser et de laisser vivre l'enfant qui était en moi, je me suis dit, tiens, si je lui racontais des histoires.
Bah, bien sûr.
Et puis, en fait, ce sont deux histoires qui me sont venues comme ça, des petits moments de magie. La cascade, c'est une légende que j'ai inventée de celui qui allait se reposer au pied de la cascade, allait se transformer en rocher pour pouvoir vraiment se reposer à jamais. Et alors, c'est pas négatif, loin s'en faut. Et en fait, je me promenais sur les bords de l'Hérieux, qui est une rivière d'Ardèche. Et il y a un rocher vraiment qui ressemble à une tête
de lion, de gros chien.
Mais c'est un rocher qui fait 10 mètres de long. Hein. C'est un gros rocher. Et évidemment, je l'ai pris en photo. Alors au début, j'ai cru que c'était un jeu du soleil. Et puis j'ai regardé, j'ai avancé. Et chaque fois au fur et à mesure que j'avançais, ça ressemblait vraiment à un lion ou à un gros chien couché là qui dormait. Et puis...
Ça vous a inspiré ce conte?
Oui, ça m'a inspiré. C'est-à-dire qu'à un moment, Bon, je fais partie de ces gens aussi qui communiquent sur les réseaux sociaux et j'avais envie de partager cette photo avec mes amis. Et puis, ça devait être un jour un peu, pas tout à fait ordinaire parce que je me levais à 5h, une heure où je préfère me coucher que me lever. Et c'est dans ces matins qui se lèvent où tout est pur encore. Il y a cette idée qui est venue d'une histoire comme ça, cette légende, mais qui était résumée en 4 mots. Et puis, je dis, tiens, il y a une histoire qui est là. Donc, elle est là maintenant sur le papier. Et il y a eu cette rencontre avec Nathalie. C'est une très belle rencontre parce que quand on collabore dans une création artistique, c'est mieux quand on s'entend avec les gens. Et bon, Nathalie Desperges-Boucatem est vraiment une belle personne qui fait des aquarelles. Et il y a la douceur dans son trait. Oui. Et avec l'éditrice, on s'est dit, tiens, ce serait bien d'associer la douceur du trait de l'aquarelle et la douceur de l'histoire. Donc, tout simplement.
Oui, c'est vraiment ce qu'on ressent quand on les a en main et qu'on pénètre, on va dire, au milieu des pages, là. Très, très, très agréable.
Oui. Alors, l'idée, c'est que ces ouvrages plaisent aussi aux adultes parce qu'il va falloir qu'ils les lisent aux enfants. Donc,
tout à fait. Déjà... Moi, c'est pour ça que je les ai achetés.
Donc, soit c'est une lecture, comme on dit, accompagnée par les parents. Donc, c'est les parents qui lisent. Soit l'enfant peut lire tout seul à partir du CE1, CE2, selon l'avancée de lecture.
Quand on commence à lire, oui. Oui, parce que c'est en gros caractère, donc c'est agréable à lire.
Et puis, toujours... dans cette idée d'écrire, et alors il a fallu que j'adapte bien sûr mon écriture aux enfants, c'est-à-dire que les phrases sont un petit peu plus courtes, ce qui n'empêche pas d'y amener de la sonorité, du rythme, ça ne quittera jamais. Et puis, donc la cascade, c'est quand même sur que les gens s'acceptent d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il y a le personnage principal est un lion.
Ouais, les différences.
Il y a toutes ces différences des différentes espèces de bêtes qui s'entendent plus ou moins bien je laisse découvrir la fin, en tout cas, qui peut paraître un peu dur, mais qui est quand même chargé d'espoir. Et puis il y a le deuxième, c'est le nuage blanc. Nuage blanc, un jour j'ai regardé le ciel et il y avait un nuage blanc. Voilà.
Qui avait une forme peut-être un peu particulière, non ?
Oui, l'histoire de cette espèce de, pas de dragon, mais de gros chien, de l'histoire sans fin. Oui. Alors que l'histoire, le conte n'a rien à voir.
Parce que c'est un petit nuage qui a l'air, au contraire, très...
Il est très gentil. En même temps, c'est un petit nuage blanc, en fait, qui a des gros problèmes parce que il a tous ses frères et ses cousins qui sont là. Alors, il y a les nuages de la tempête qui sont toujours très durs. Il y a les nuages de l'orage qui claquent et tout ça. Et à chaque fois, il est repoussé, rejeté. Et un jour, il en a un petit peu assez. Alors, il se laisse porter par le vent qui court dans la grande vallée et il se retrouve au-dessus de la mer et à force, il se retrouve de l'autre côté où il n'y a que le désert. Et c'est le seul endroit, à un moment, il regarde en bas, il y a les enfants qui sont là sous son ombre et qui sont heureux de le voir. Alors là, lui, il est heureux, mais il y a ses parents, c'est-à-dire son père, c'est le soleil et sa mère, c'est la terre, qui se demandent où il est. Et donc, ils arrivent à le faire revenir grâce au vent du sud, au vent du désert, en lui demandant de faire attention à ce que le sable n'effiloche pas le petit nuage blanc. Et puis, quand il rentre, les parents disputent un peu les gros frères qui ont toujours rejeté le petit nuage. Et à la fin, il demande « Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça se passe bien ?» Alors le petit nuage, il dit « Revenez tous avec moi là-bas de l'autre côté, dans le désert, parce que là-bas, ils ont besoin de pluie, ils ont besoin d'eau, et vous qui savez pleuvoir, venez déverser de l'eau là-bas. » Alors ils y vont, et là, les enfants sont heureux. Ils découvrent la pluie, ils découvrent l'eau, il y a les fleurs qui sortent du désert. Et au moment de rentrer, il y a même quelques nuages qui décident de rester. Parce que, une fois de plus, ils sont heureux que les enfants l'accueillent. Alors l'intention, parce qu'il y a une petite intention derrière, Bah, c'est que les enfants lèvent les yeux au ciel, regardent les nuages.
Regardent les nuages, exactement.
Voilà, se détachent de ce quotidien numérique pour peut-être aller regarder un peu plus haut et voir regarder la nature, cette fameuse nature que j'essaye de chanter tout le temps.
C'est vrai, mais c'est vrai que nous aussi, en tant qu'adultes, on a ce rôle à jouer auprès de nos petites têtes, là.
L'idée, c'est un petit peu comme dans les romans, c'est-à-dire que j'ai pas envie de dire « Oui, les petits, levez les yeux au ciel !»
Non. Ça marche pas comme ça. Non.
Ça marche d'abord en plus pas avec les enfants, mais même qui suis-je moi pour donner des ordres à qui que ce soit, déjà que j'obéisse aux miens et bon, on commence par soi-même. Mais l'idée c'est de suggérer, c'est de proposer, c'est
d'inviter.
Pas, voilà, ouais. je ne veux pas parler du mal, parce que le mal on en entend parler tout
trop
le temps.
Souvent.
Et puis on en a marre.
Tout à fait.
Moi j'ai
le
envie...
beau, le
voilà, voilà. proposons le beau, ce qui fait du bien.
Tout à fait.
Essayons d'attirer, de suggérer le regard, d'ouvrir une fenêtre.
C'est ça.
Et là après qui regarde, c'est bien. Qui ne regarde pas, c'est son affaire, mais au moins ça aura été proposé.
Tout à fait.
Dans cette intimité, quand un auteur écrit, il passe des heures et des heures à écrire. En tout cas, je retravaille chaque mot, je revendique chaque point virgule de mes textes, qu'ils soient romans, contes ou quoi que ce soit. Et autant que, déjà, moi j'aime ce que j'écris, d'une part, mais aussi que ce que je propose dans ce chuchotement intime, dans ce privilège que l'auteur a d'être lu, parce que c'est un privilège que quelqu'un stoppe sa vie dans ce monde pour rester un moment avec son lecteur. Donc l'idée, c'est vraiment que si ça peut suggérer quelque chose, allons-y.
Comment vous est venu ce goût de l'écriture? Ça date depuis quand?
Alors j'ai tendance à dire cette blague où en fait j'ai commencé à écrire le jour où on m'a obligé d'aller à l'école, donc ça remonte à quelques années en arrière. Je me souviens d'ailleurs, j'avais pas un rapport très bon avec la graphie, puisque combien de fois je suis rentré avec des pages déchirées par le professeur et donc à recommencer à la maison. Mais bon, disons que ça a commencé il y a 20 ans environ. 20 ans environ où une situation, une confrontation m'a poussé à écrire, et je ne sais pas pourquoi, poser sur le papier tout ce que je ressentais, et ça a commencé par un espèce de cahier quotidien qui est resté pendant des années dans un tiroir parce que c'était très mauvais, je peux le dire. Et puis, quelques années plus tard, il y a une espèce d'aventure, je revenais de Cuba. Je revenais de passer un mois à faire de la musique à Cuba avec des amis, où vraiment c'était quelque chose de très fort. Et je me suis dit, tiens, enfin, je me suis même
vous
pas
dit. Vous avez été inspiré, quoi.
Voilà, c'est l'histoire qui est venue à moi, tout simplement.
Le voyage, la musique, tout ça vous a inspiré
à
écrire, donc, votre premier livre?
Oui, et puis c'est surtout j'ai fait de la musique, j'ai fait de la sculpture, j'ai fait pas mal de disciplines artistiques. Et il y a un moment, il y en a une qui vous attrape plus que les autres. Et je me sentais tellement bien dans l'écriture que je suis peut-être, j'aime bien la vie, j'aime bien jouir de la vie. Et quand il y a quelque chose qui est bon, qui me prend, je me laisse faire.
Vous avez raison. Alors, donc, tous vos livres sont édités à la maison donc, d'édition Élan Sud. Pourquoi ce choix au départ pour cette maison d'édition?
Alors, bon, j'ai la proximité, bien sûr, avec la maison d'édition. Aujourd'hui, être édité dans une grande maison, c'est-à-dire ces maisons parisiennes dont tout le monde connaît le nom, principalement dans les prix littéraires, c'est très compliqué pour plusieurs raisons, parce que déjà, c'est inaccessible, ils reçoivent des milliers de manuscrits par jour, ou par semaine, ou par an, et donc c'est très compliqué, et puis même, j'ai beaucoup d'amis auteurs dans ces grandes maisons, et en fait, quand on voit qu'un éditeur peut sortir 100 ou 200 titres par an, on peut bien se dire que dedans, il va y en avoir 90% qui vont passer un peu à la trappe, et il n'y aura pas d'accompagnement forcément, il n'y aura pas ce suivi, ce suivi littéraire. Et donc l'intérêt chez Élan Sud, c'est qu'il y a ce vrai suivi littéraire qui au début peut paraître difficile, parce que quand on a écrit un roman, on pense que parce qu'on l'a écrit, tout est bon, et justement non. Et je reviens justement à ce regard extérieur. Et donc, entre le premier manuscrit proposé et le dernier, je vois l'évolution dans l'écriture. Alors même s'il y a beaucoup de choses qui viennent de moi, de mon imaginaire, de ma petite chanson intérieure, il a bien fallu au départ qu'il y ait quelqu'un qui vienne élaguer un petit peu toutes ces scories qu'on pouvait trouver dans mes textes.
Alors Dominique, moi j'ai été un peu interpellée dans tous vos livres. Il y a un personnage qui revient souvent, il y a toujours le même prénom, c'est Léon. On rencontre Léon dans tous vos romans.
Oui, même dans ce...
Alors c'est qui Léon ?
Alors, c'est toujours drôle d'avoir cette question parce que bon, c'est, en même temps, c'est moi qui l'ai provoqué sans. Enfin, je me doutais bien qu'un jour ça.
Sans le vouloir, peut-être.
Sans le vouloir, oui. Je ne sais pas pourquoi le premier personnage du roman qui s'appelle Toca Léon, donc joue Léon, puis Léon Mazel dans La Grande Borie, puis deux Léons sans nom de famille dans les deux autres. En fait, je l'ai fait sans y réfléchir. Et il m'a fallu trouver des réponses pour les journalistes, en fait. Mais ce ne sont que des justifications sociales, j'ai envie de dire, quand je donne une réponse. Alors, j'ai envie de dire pourquoi pas. Je préfère avoir le même prénom dans des histoires totalement différentes, des univers différents, plutôt que d'avoir de changer de nom, mais de garder la même rengaine. Donc voilà, puis c'est...
un petit clin d'œil, toutes les fois, il y a ce petit Léon, enfin petit ou grand, qui, grand voilà, qui est là, qui apparaît dans vos romans.
Tout à fait, c'est le deuxième prénom de mon père. Non, c'est le prénom de mon père, pardon, c'est mon deuxième prénom.
Ah,
c'est le prénom de mon
j'allais père. Dire, est-ce qu'il a un lien avec vous, ce Léon? Obligé.
Quelque peu.
Obligé. Merci Dominique Lain. Donc vous savez, chers auditeurs, que vous pouvez écouter et réécouter cette émission en podcast sur notre site web www.rtvfm.net. En espérant que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, je vous dis au mois prochain, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année.